RMC.
Inbound the card right to Jordan. Time winding down. Michael for three. Yeah! Yeah! Yeah!
Basket time.
Final seconds. Bryant for the win. Bang!
Pierre Dorian.
Basket Time, votre rendez-vous basket sur RMC. C'est la fin de la saison régulière de la NBA. Nous allons donc faire le bilan de la saison et commencer aussi un peu à nous projeter sur la suite. Nous sommes avec Stephen Brun, Sacha, Alix et Fred Weiss. Alors Sacha, bah, il y a eu débat. Est-ce qu'on le reprend ou est-ce qu'on le reprend pas après l'épisode de la semaine dernière où il a été carrément un élément, j'ai envie de dire, blasphématoire. Je veux dire, il s'en est pris à Tipeee de manière éhontée.
Bon, Stephen... Sans raison.
Stephen a écouté le podcast, il s'arrachait les ongles en écoutant Sacha.
Ah, ça s'est réglé à l'entraînement, comme toutes les histoires de vestiaire.
Il écoutait, il se mutilait tellement ça lui faisait mal.
J'ai une question pour toi.
Je t'en prie.
Tu fais abstraction du nom et du prénom. Je te présente le palmarès de Tony Parker. Sans que tu saches c'est Tony Parker, est-ce que tu te dis « Ah, ça c'est Hall of Fame »
Le palmarès, oui. Ah, les statistiques individuelles, moins.
Merci. Moins. Ce que je voulais savoir. En fait, tu chies parce que ça s'appelle Tony Parker.
Retirez d'entrée de jeu. Vous pouvez aller télécharger le basket time de la semaine dernière si vous l'avez raté.
Ça aurait été Bernard Johnson. Ah oh ouais, c'est exceptionnel.
Ah non, c'est facile de dire ça.
C'est un des meilleurs de l'année. Alors, j'ai quand même une dernière question avant de démarrer là, tambour battant. C'est que j'ai l'impression que t'as somatisé Stephen. T'as été forfait, bon, pour une intoxication alimentaire. Mais j'ai l'impression que ça te faisait tellement mal au bide. Non, de devoir entendre que Tipeee ne méritait pas le Hall of Fame, que ça t'a rendu malade.
J'avais tout préparé. Et
j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ne mérite pas le Hall of Fame. Non, j'ai dit sans les
Spurs.
Déjà, le fait de mettre Mario Chalmers et Tony Parker dans la même phrase, déjà, ça mérite une exclusion de 15 jours.
Bah voilà, c'est pour ça qu'il y a eu débat.
C'est pour ça qu'il est revenu tout de suite.
Finalement, on l'a repris. Alors, ce sera un spécial bilan. Nous allons faire dans le bilan des Français une grosse partie sur Rudy Gobert. Rudy the Punch Gobert, puisque évidemment, c'est l'un des événements marquants de la semaine. Avant cela, vos tops et vos flops. Alors, en langage basket time, ça devient vos enchantements et déceptions de la saison. Voilà, c'est ainsi que le producteur Geoffrey Charpie a voulu intituler ce premier débat. Bilan des Français, donc beaucoup sur Rudy Gobert, mais aussi sur les autres. Ils sont pas très nombreux cette saison. Et enfin, la partie historique, c'est vous qui remettez les récompenses individuelles de la saison. Donc, il y aura débat sur le MVP et ensuite, chacun d'entre vous remettra un trophée. Le quiz, j'espère que vous connaissez bien votre saison. Voilà, puisque dans le quiz, évidemment, le bilan va être très important. Là, je vois une grimace de Sacha. Rendez-vous tout à l'heure. On démarre tout de suite sur les tops et les flops de la saison de NBA.
No timeout here for the Kings. Fox. Two Fox from midcourt. Got it! De'Aaron Fox!
Doesn't have numbers. Steps through.
Oh, Morant blocked the shot! You've got to be kidding me! Morant!
To Durant. The fake. The second.
Oh! Ankle breaker! KD!
Tatum on the cut. Takes it all the way and slams it! He wanted a foul.
Garland high steps over the timeline. Stops on a dive. Hits the three!
Doncic, that low dribble. Help. Doncic, behind the back for the highlight, Kleba.
Alors, quels sont vos enchantements et vos déceptions de la saison? Vous avez entendu des Sacramento Kings dans cette illustration, De'Aaron Fox. Compliqué à prononcer correctement. Hein.
De'Aaron Fox.
Ouais, il le dit un peu différemment de ça, le garçon là.
De'Aaron Fox. Ça, c'est pour le prochain quiz. Il y a un 2 devant.
Est-ce que il fait partie,
non, une apostrophe.
Fait partie de la famille de Wendy et Hervé.
Hervé Fox, Wendy Fox,
et Sidney Fox aussi.
Stephen, qui a déjà la langue bien pendue, quels sont tes enchantements et tes déceptions?
Mes enchantements, on fait un par un, parce que j'en ai eu.
On fait un par un,
quelque chose. On va commencer par Sacramento, on est obligé de commencer par les Kings.
Troisième à l'Ouest, ouais. Avec un bilan de 48-34.
Mais écoute, 16 ans après, ça retrouve les playoffs, dans un style de jeu qui me plaît bien, parce que c'est tout pour l'attaque, c'est la meilleure attaque de la saison, emmenée par De'Aaron Fox, qui a été fantastique, surtout dans le Money Time, qui est un des meilleurs joueurs de Money Time, un des joueurs les plus clutch. 25 points, 6 passes de moyenne. Monsieur double-double, Domantas Sabonis, qui a régné dans la raquette cette saison en NBA. Et puis la révélation, Kevin Werther, peut-être le meilleur rouquin outre-Atlantique, avec 15 points de moyenne à 40% à 3
bien
points.
Bien sûr, ça c'est une catégorie, bien sûr.
Oui, c'est important. Voilà, et puis un rookie qui a été très bon, Keegan Murray aussi, qui a fait sa belle petite saison, 41% à 3 points. Et puis des joueurs, des role-players, mais plus, hein, Harrison Barnes, Malik Monk. Donc voilà, il fallait faire un petit shout-out to Sacramento, qui est de retour en play-off.
Est-ce que ce ne seraient pas les dignes successeurs de Chris Weber,
Mais après, Chris Weber et Hall of Fame, est-ce qu'il mérite vraiment les Hall of Fame? Je sais pas, moi.
Tu nous as choqué la semaine dernière, Sacha. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le tableau des récompenses de Stephen Brun?
Les Cavs.
Ah, les Cavs.
Les Cavs, parce qu'il y avait énormément d'attentes.
Discret, mais quatrième à l'Est dans une conférence très relevée.
Ouais, 51 victoires, c'est quand même important quand vous passez la barre des 50 victoires derrière les mutants que sont les Bucks, les Celtics et les Sixers. Beaucoup d'attentes, beaucoup d'excitation avec l'arrivée de Donovan Mitchell à l'intersaison. Un style complètement opposé à Sacramento parce que c'est tout simplement la meilleure défense de la ligue avec une raquette Evan Mobley, Jarrett Allen qui empêche tout accès au cercle. Donovan Mitchell fait sa meilleure saison en carrière. Il a 28 points à 38% à 3 points. La double avec Darius Garland, elle est fantastique. Donc voilà, Cleveland qui vont affronter les Knicks au premier tour.
Il va se frotter à New York, ça va être intéressant.
Ça va être très intéressant.
New York finit bien. Et puis le vainqueur de cet affrontement, si je ne dis pas de bêtises, retrouvera Milwaukee, a priori. Parce que Milwaukee
si
passe.
Si tout se passe bien, si la logique se passe bien. Après, je peux citer les Knicks, parce que la greffe Jalen Brunson a été fantastique. C'est pour moi le vrai leader de cette équipe-là. Il fait 24,6 passes de moyenne.
Pourtant, tu as foutu dehors à coups de pied aux fesses des Mavericks.
Ouais, c'est vrai. Je fais mon petit mea culpa. Je pensais que des joueurs comme ça, il y en avait à l'appel au NBA. Finalement, non. Quand il a loupé des matchs, les Knicks ont été dans le dur. Donc, c'est vraiment lui.
Qui a dit aux Mavs, il me manque cruellement?
Lucas.
C'est Luka Doncic qui a dit ça?
Luka Doncic et Mark Cuban a dit que quand le père de Jalen Brunson est arrivé dans les transactions, ça a foutu le dawa et c'est pour ça qu'il est parti à New York. Bref. Pour revenir sur les Knicks, voilà, j'ai bien aimé Emmanuel Quickly, scoring machine en sortie de banc. Il faut dire aussi que les choix de Thibodeau de resserrer les rotations en novembre et de mettre à droite Cam Reddish, Evan Fournier et Eddie Rose, et ben ça a été bénéfique. L'arrivée de Josh Hart à la trade deadline, c'est une grosse plus-value aussi. Donc voilà, mon petit coup de cœur les Knicks. Et puis je finirai par OKC, l'équipe la plus jeune de la NBA, qui décroche une place en play-in, alors qu'ils sont toujours dans un process un petit peu de formation des jeunes joueurs. Et puis Shai Gilgeous-Alexander, qui a tenu son rôle de leader, qui termine quatrième meilleur score de la Ligue. Voilà.
Alors, qu'est-ce qui t'a plu dans cette saison, Sacha?
J'ai beaucoup de points communs avec Steve, ce qui est assez étonnant. Moi, les Cavs aussi, je trouve ça incroyable. Parce que c'est une vraie équipe qui s'est construite, alors qu'on Cleveland normalement s'attend pas à grand chose quand il n'y a pas LeBron là-bas, et je trouve ça hyper intéressant comme histoire. Je vais pas faire doublon avec ce qu'a dit Steve, mais j'avais New York et Cleveland. Je vais rajouter Brooklyn parce qu'avec la perte des joueurs superstars, avoir une continuité, créer une nouvelle sorte de collectif, cette nouvelle cohésion un petit peu de la galère que Brooklyn a déjà connue quand il perdait des stars, j'ai l'impression que ça se répète et je les trouve assez solides. J'aime bien ce qu'apporte Bridges dans l'équipe. Ça permet aussi à d'autres joueurs qu'on connaissait moins de se distinguer, Cam Thomas. Je mets aussi les Pelicans parce que c'est un peu l'équipe à chaque fois qu'on a envie de voir en playoff, on a envie de se dire qu'est-ce que ça peut donner si ça fonctionne bien, si tout le monde reste en santé, s'il y a une vraie opposition en face sur une série de plusieurs matchs. Donc j'ai bien aimé la saison des Pelicans qui sont en progrès, qui ont fait des pics aussi et des trades assez intéressants. Mais moi je reste assez d'accord sur New York, c'est assez fort ce qu'ils ont fait, parce que si on prend leurs trois dernières saisons, c'est une place en playoff bien solide. On rate les playoffs l'année suivante alors qu'on avait peut-être trouvé quelque chose, mais on a surutilisé Randle, etc., beaucoup de soucis. Et après, on retrouve encore une fois les playoffs en ayant fait des choix forts, ce que je pense que d'autres équipes n'ont pas fait, et notamment dans une certaine mesure Dallas à certains moments. Et franchement, c'est assez agréable et je trouve que le paysage à l'Est, il a bien évolué. Et la série de New York-Cleveland va être hyper, hyper intéressante, même si c'est peut-être celle que les gens vont moins regarder ou celle qui parle le moins au grand public. Ça va être une super série de playoffs.
Mais les Pelicans, je fais une petite parenthèse, tu
une bonne surprise.
Ça peut être dans les déceptions. Alors, bon, vu que tu y es, on y reviendra tout à l'heure. J'insiste pas dessus. Tu as fait le tour de tes points positifs, toi, Fred. Qu'est-ce qui t'a plu?
Alors, malheureusement, ils m'ont pris un petit peu tout ce qui m'avait plu, mais moi, je prends des joueurs à l'intérieur ces franchises, dans les Kings, Domantas Sabonis, dit que c'est le mini Jokic. Le mini Jokic est meilleur rebondeur de la ligue. Mm-hmm. Il a porté énormément. Quand il y a eu ce transfert, tout le monde s'est dit ouais, bof. Et finalement, il retrouve les playoffs. Donc, je suis super content de la saison qu'il fait avec des super stats. Il y a plus de 7 passes de moyenne. Donc, on l'a dit, meilleur rebondeur. Je suis très impressionné et énorme satisfaction. Et tu l'as dit aussi, Sacha, mais Mikal Bridges. Parce que quand il va au Nets, tu te dis, il est échangé contre KD. Alors même lui, il le dit, moi, je me serais échangé contre KD. Et finalement, il arrive, depuis qu'il est au Nets, il a plus de 26 points de moyenne, plus de 4 rebonds et demi. Dans cette équipe des Nets qui a explosé en vol et qui malgré tout se retrouve sixième. Moi, je trouve ça assez fantastique comme histoire pour lui. On a oublié le big three qu'il y a eu. Ben Simmons, c'est un fantôme. Et malgré ça, Mikal Bridges arrive, fait ses stats. Et on a Dinwiddie qui revient à la maison aussi. Donc, Voilà, moi, c'est les deux principales satisfactions de la saison avec les Nuggets, évidemment, parce que depuis qu'il a retrouvé un petit peu lui aussi son Big Three, je trouve que c'est plutôt intéressant.
Sur Sacramento, pour une petite parenthèse, parce que je pense pas que vous ayez prévu d'en parler, ceux qui se sont bien troués dans leur transfert, c'est Indiana quand même.
Ah ben Indiana, oui.
Indiana, oui. Après, Tyrese Haliburton fait une belle, il blessait beaucoup sur la fin de saison, Tyrese Haliburton, mais oui, finalement, on pensait que c'était un deal. Presque gagnant-gagnant, mais on s'apprête que Sacramento a plus gagné.
Il est All-Star, il est en progression, oui. Et tu dis qu'il peut y avoir à miser sur ce joueur, effectivement, sur les résultats.
Mais peut-être que tu n'as pas donné assez de crédit à Domantas Sabonis quand même.
Ah, mais ça, c'est sûr. C'est pour ça que je voulais en parler.
C'est pourquoi j'ai beaucoup de mal avec Domantas Sabonis. Parce que j'ai en tête toutes les compétitions européennes qu'il joue avec la Lituanie, il me déçoit. Il me déçoit, Sabonis. Il n'est pas dominant en Europe comme il est en NBA. Parce que c'est un mec qui est formaté américain, qui est Gonzaga.
C'est pas son père.
Et il arrive avec la Lituanie. Je me dis, à chaque fois, Valanciunas, Sabonis, ça va détruire toute l'Europe. Et finalement, je reste sur ma faim. Quoi. C'est moyen en Europe. C'est pour ça. Alors, mais en NBA, bravo.
On va passer aux déceptions. Qui t'a déçu? Ah, évidemment, tu vas nous parler des Dallas Mavericks.
Non, même pas. Je vais laisser aux autres.
Ah, quand même. Non,
je vais laisser aux autres.
C'est un peu bête parce que moi, je te l'ai laissé aussi parce que j'imaginais que forcément, tu allais parler de ça.
Sans parler de Dallas, je vous le dis tout de suite. Hein, dans le bilan de la saison, c'est quand même un des points forts, c'est Dallas.
Non, mais je vais commencer par un joueur. Je vais commencer par Zion Williamson.
Alors,
la déception. Alors Fred parlera des Pelicans. Moi, je vais parler de Zion Williamson. Alors, c'est pas une déception côté stats et chiffres parce que c'est très bon. Mais le problème, c'est qu'il a joué 29 matchs de basket. Il a joué 29 matchs de basket. Ça fait 4 ans qu'il a été drafté. 114 matchs joués en 4 saisons. Une saison blanche en 2021-2022. Et où est-ce que ça nous emmène? Alors là, on parle d'un retour éventuel en play-in. Mais ça fait 4 ans où on voit des bribes de Zion Williamson, justement. Donc pour moi, ça fait partie des déceptions.
Et le pire, c'est que c'est des magnifiques bribes. Parce que chaque fois qu'il est dans cette équipe, il est All-Star, il est inarrêtable. C'est assez fantastique ce qu'il propose, mais il n'est pas là, quoi.
Portland. Oui. Portland, 33 victoires seulement, un moins bon bilan que Utah, qu'Orlando et que Washington, avec dans votre équipe Damien Lillard qui fait une saison exceptionnelle, troisième meilleur scoreur de la ligue, quand vous avez Jeremy Grant, quand vous avez Anfernee Simons, quand vous avez Yusuf Nurkić.
Un des plus grands joueurs de ces 20 dernières années,
Damien Lillard,
sans aucun doute.
Exceptionnel, et fantastique meilleur de jeu, un des plus grands meilleurs de jeu de ces 10 dernières années, Damien Lillard. C'est un joueur énorme, il n'y a pas photo, je crois qu'il se classe parmi les plus grands.
Hall of Famer ou pas?
Ouais, facile,
non, mais c'est pour ça,
non, mais vraiment, il le sera. Non,
oui, bah oui, bien sûr.
Il le sera. Il le sera.
On verra. Hein. C'est pas moi qui décide. Hein.
Mais non, en fait, ce qui est affolant, c'est que sur les 14 premières rencontres de la saison, Portland en a gagné 10. C'est-à-dire qu'ils en ont gagné 23. Tout le reste,
c'est un peu habituel quand même. Portland qui commence très bien les saisons en général et qui s'écroule sur la fin.
Donc c'est voilà, pour moi ça fait partie des déceptions de la saison. Je vais parler de Minnesota.
Minnesota qu'on développera bien sûr avec Rudy Gobert tout à l'heure, mais
saison sportive où ils gagnent 4 matchs au moins que la saison dernière, alors qu'ils ont fait banco, ils ont fait venir un garçon qui est 3 fois meilleur défenseur de la ligue. Ils ont mis en péril l'avenir de la franchise en transférant 5 joueurs et 5 tours de draft pour Rudy Gobert. Il y a une qualif en play-in, ric-rac. La saison dernière, ils sont 7e. La cohabitation Carl Anthony Towns, Rudy Gobert, qu'on n'aura quasiment jamais vu parce que Carl Anthony Towns a loupé 50 matchs. Voilà, on peut noter qu'Anthony Edwards s'est accaparé le rôle de leader et c'est peut-être la seule satisfaction de cette équipe-là. Et puis bah, les Mavs qui étaient 4e.
La saison de Carl Anthony Towns.
On peut pas la qualifier. Il a joué 25 matchs. Donc oui, c'est forcément décevant. Après, bah, les Mavs, on est obligé d'en parler puisqu'ils étaient 4e avant l'arrivée de
Kyrie. Mais les Mavs, c'est le plus gros fiasco parce que tu n'es même pas en play-in.
Et ils balancent, ils l'ont balancé le play-in. Ils auraient pu y être, mais ça les a pas intéressés pour éventuellement. Actuellement, voler une petite boule dans la roue de la draft et
avoir ça se tente pas finalement parce que ton équipe elle tourne pas, ça se passe très très mal. Est-ce que ça se tente pas un peu?
Ça fait partie du règlement.
Voilà.
Est-ce que c'est plus honteux de tanker sur les 3 dernières matchs de saison que de tanker quand la saison commence en octobre? Je sais pas.
Non, mais après, j'ai vu que Mark Cuban a dit qu'il tenait à Kyrie Irving. Est-ce que ça c'est de la com ou est-ce que ça peut être une vraie stratégie sportive?
Non, je pense pas que ça soit de la com. Le problème c'est que le marché des free agents cet été il est pas terrible non plus. Il y a pas de fantastique nom, et Dallas c'est pas une franchise qui attire les gros noms et les gros free agents, donc ils sont obligés de tenter de
le garder.
Ouais, même si Kyrie a dit qu'il allait explorer le marché, écoute, on verra. Luka Doncic a eu un discours rassurant hier parce qu'il y avait beaucoup de doutes sur est-ce qu'il va être capable de demander son trade. Il a dit non, je suis très bien ici, mais il va falloir faire quelque chose pour que les résultats soient un peu mieux. Mais c'est vrai que quand t'as 4e,
il faut récupérer Rudy Gogo à Dallas. Eh bien sûr.
Ouais, pourquoi ouais.
Avec les deux phénomènes. Alors
c'est sûr qu'il faut un protecteur de cercle. Ça, ouais. C'est une évidence.
Et par contre, Christian Hoon, c'est quelqu'un qui peut l'emmener à l'aéroport de Dallas. Et voilà, je peux conduire un Uber s'il faut.
Peut-être
s'il faut
ça peut intéresser Minnesota. Hein,
en vrai, je pense que c'est un style qui peut les intéresser en plus.
Bah oui.
Mais non, mais Rudy Gobert, moi, c'est très bien à Dallas. Hein. Je suis très content.
Ah, bien sûr, je ne suis pas ça pour rigoler. Hein. Voilà. On a fait le tour.
Ouais.
Sacha.
Alors moi, dans les flops, on ne va pas rajouter Dallas, mais moi-même, je vais mettre. L'équipe que je supporte aussi dans les flops, c'est l'équipe d'Atlanta, qui je trouve fait pas forcément une saison qui est à la hauteur de ce qu'elle pourrait faire. Mm-hmm. On le rappelle, cet été, il y a eu pas mal de trades pour Atlanta. L'acquisition majeure, ça a été celle de Dejounte Murray, l'ancien meneur des Spurs. Effectivement, statistiquement, la saison de Murray, elle est sympa, hein, puisqu'il fait, il fait 20 points, il fait 6 passes D, 5 rebonds, donc il est complet, il a son rôle, qui est à la fois défensif et offensif dans cette équipe-là. Sauf que c'est une équipe qui stagne, voire régresse, en fait. Si on se rappelle, il y a 2 ans en arrière, Atlanta, c'est une finale de conférence.
À la surprise générale.
Oui, à la surprise générale, concours de circonstances, évidemment. Et il y a un upset qui est quand même assez fou contre les Sixers. Mais tu t'attendais à ce qu'on construise quelque chose à partir de cet exploit-là, ouais, entre guillemets. Et finalement, les signes pour rassurer Trae Young, ça a été de ramener une autre star, un All-Star, puisque à l'époque, Dejounte Murray, il est All-Star pour les Spurs. Et en fait, tu ne pallies pas du tout au vrai souci de ton équipe. Atlanta est une équipe qui est soft. C'est une équipe qui a énormément de mal à l'intérieur, parce que je pense que la paire Capella Collins, en fait, elle fait des statistiques, mais l'impact qu'elle a sur les matchs.
Et Collins, chaque année, on dit qu'il va dégager.
Oui, c'est ça. Voilà.
C'est ça le vrai sujet. C'est Collins, c'est un joueur qui, on l'a prouvé, ne sert pas à grand chose, en fait.
Il est sur un fil.
Ouais.
Collins.
Très bon. Et le pire, c'est que c'est vrai. Et donc, cette équipe-là, elle stagne. Là, elle va se faire peur au play-in parce qu'elle va jouer Miami, qui est sa bête noire sur le premier match. Donc, ça va tout de suite les mettre dans une position en difficulté. Et je sais pas ce qu'on attend de cette équipe. On sait que Trae Young, en plus, c'est souvent plein de pas être suffisamment entouré. Là, il y a eu un nouveau coach qui est arrivé, Quinn Snyder. C'est peut-être le bon signe de cette franchise-là. Mais sinon, je trouve qu'elle a pas fait de pas en avant. Je pense que Capella Collins, ça dessert l'équipe. Le banc, il s'est amoindri aussi. T'as moins de leaders en sortie de banc qui peuvent créer des choses comme.
DeAndre Hunter est un joueur correct.
Ah, DeAndre Hunter, j'aime bien. Ouais. Mais t'as sacrifié Werther, tu vois, qui a fait une super saison. Reddish, c'était un pari, ça n'a pas marché. Et c'est comme ça que Luka a été trade finalement. Parce qu'au départ, c'est un pic. C'est Luka Doncic, le pic d'Atlanta. Hein. C'est pas Trae Young. Donc,
tu sais qui serait bien à Atlanta ? Hawkins.
Non, mais Rudy Gobert à Atlanta, je crois aussi tous les jours, par exemple.
Vraiment. Fabrice Hawkins, qui est un journaliste d'RMC Sport, je le dis au
foot,
cas où.
Journaliste foot d'RMC Sport.
Bon, DeAndre Hunter, tu le notes pour le quiz avec une apostrophe dans le nom.
Le chasseur. Parler, ouais, c'est clair.
Par contre, explique-nous un truc, Sacha. Parfois, peut-être aussi, on a des explications comme ça. Ça vous explique peut-être le podcast de la semaine dernière.
Pourquoi tu kiffes Atlanta ?
Qui est supporter des Atlanta Hawks à 30 ans ? Tu peux être supporter des Atlanta
Sacha,
Hawks.
Sacha, c'est un mec des strip clubs, gros. Donc à Atlanta, il y a des strip clubs. Gros.
Et du poulet frit, c'est genre vraiment les clichés. Non, parce que moi, cette équipe d'Atlanta, elle m'a fait rêver. À l'époque où Boston fait son Big Three, il va chercher le titre. Au premier tour, la seule équipe qui pousse ces Celtics-là en 7 matchs, c'est les Hawks d'Atlanta avec un collectif qui est très sous-coté avec Josh Smith, Joe Johnson, avec Bibi, etc., qui est une équipe qui jouait bien au basket avec des joueurs que personne calculait, et je trouvais que ça correspondait bien.
C'est une franchise que personne n'a jamais calculée.
Ouais, je pense aussi.
C'est un peu vrai. Hein.
Dominique Wilkins.
C'est ça. Il faut remonter à 30-40 ans. Hein.
On parle de joueurs supérieurs.
Oui, mais je suis d'accord. Vainqueur du concours de dunk, ça a marqué un peu l'esprit. Petit joueur,
mais chaque franchise est respectable, et évidemment, tu supportes qui tu veux. Je supporte bien le Paris Saint-Germain. Je vais pas donner les leçons aux autres. Fred, bien sûr, je plaisantais. Fred.
Bon, alors j'avais évidemment Dallas, j'avais évidemment Portland, et moi c'est les Pelicans qui m'ont le plus déçu parce que j'avais beaucoup d'attentes, forcément. Parce que dans ton équipe, t'as Ingram, t'as McCollum, t'as Valanciunas.
Quand même.
Tu
c'est
te dis que.
C'est une déception, là, j'ai pas compris pourquoi énorme. Tu les as mis dans les satisfactions.
Pour moi, c'est énorme déception parce que ça joue très très bien, c'est très très haut hein, dans la conférence Ouest, rappelez-vous quand même.
Ils ont des joueurs. Herbert Jones,
exactement. Très très Murphy, qui est plutôt un bon joueur aussi. Pour moi, c'est une équipe magnifique. Mais c'est vrai que quand il y a Zion, ça se passe bien. Après, il y a Ingram qui a été blessé aussi pendant pas mal de temps. Ouais. En plus, au pied, on n'a pas très bien compris ce qu'il avait. Moi, j'étais super hypé par cette équipe parce que je me suis dit que vraiment, il y avait moyen de faire des choses. Et sur le début de saison, il le montre. Et depuis la blessure de Zion, ça a été très compliqué. En plus, on n'a pas de nouvelles vraiment de ce qu'il en est de Zion. On ne sait pas s'il va pouvoir reprendre rapidement l'année prochaine ou s'il va même pouvoir jouer peut-être.
Quel enfer ça pour une franchise quand même.
C'est un enfer incroyable. Mais voilà, j'étais hyper hypé parce que cette équipe me plaît vraiment, parce qu'ils ont montré des choses et que malheureusement, sur la fin, c'est compliqué.
Alors, sous débat dans cette question, est-ce que CJ McCollum est un joueur surcoté ?
Bah, il va te dire oui, Sacha.
Ah non, moi justement, je trouve pas.
Moi je trouve pas. Enfin, franchement, moi je trouve pas. Moi je trouve que c'est plutôt un très bon joueur. Alors...
Je sais pas, tu nous as vendu un flop du duo McCollum-Lillard il y a trois semaines.
Ah, mais c'était peut-être moi.
C'était la faute de Lillard.
En visant McCollum. Non, mais je trouve que McCollum, voilà, il change d'équipe, il fit bien avec celle-ci. Maintenant, quand c'est lui le joueur majeur de cette équipe-là et que c'est avec Valanciunas qui est censé faire le duo qui porte cette équipe, ça ne fonctionne pas.
Il a pas la carrière pour être la McCollum vertébrale.
Non, c'est mauvais.
Non, mais je pense que la colonne vertébrale, c'est clairement Ingram, on le sait.
Et Ingram coup, blessé, ça a été compliqué, parce que c'est quand même un fantastique joueur. On ne se rend pas compte à quel point c'était un fantastique joueur.
Il est un peu léger.
Avant de parler de Rudy Gobert et de faire le bilan des Français, petite question comme ça quand même, parce que démarre les
play-ins. Ça compte pour le quiz ?
Qui est votre favori pour le titre, là, en quelques mots et rapidement, sans trop argumenter, Steve ?
Mon favori pour le titre, tu me connais, moi, je suis un mec. Je vais aller au bout du truc. Moi, je vais dire les Clippers.
Les Clippers ? C'est chaud les Clippers, hein.
À l'Ouest, après je vais donner une équipe de l'Ouest, je vais donner une équipe de l'Est.
Mais tu dis les Clippers en 1, les Clippers qui vont devoir se cogner Phoenix premier tour. Hein.
Série exceptionnelle. Okay. Kawhi versus KD.
Et donc
PG, il va revenir quand ?
Je sais pas, là ils disent qu'apparemment
ça peut changer quand même.
Et sinon.
Paul George a raté le début des playoffs.
Ouais, c'est bon, ça peut changer quand même.
En playoffs, c'est pas non plus.
Tu vas uriner sur tous les joueurs NBA. En fait, c'est incroyable.
Mais on l'appelle Playoff P, pourquoi ? On l'appelle Playoff P, pourquoi, les gars ? On connaît la réputation de Paul George en Playoff.
C'est incroyable.
Non, mais parce qu'ils sont tous moins forts que les LeBron James, en fait. C'est ça le problème.
Non, mais attendez, il a failli donner une série en ratant des lancers francs, les gars.
La question, c'est est-ce que c'est un vrai danger quand il est sur le terrain ?
Je vais jouer les Sixers à l'Est.
Les Sixers à l'Est. Ok, Sacha, qui sera champion ?
Pour moi, c'est Milwaukee.
Milwaukee.
Avec un Giannis dominant qui fait pas de bruit, personne ne le calcule. C'est les plus dangereux.
Fred, qui sera champion ?
Alors, qui sera champion, je ne sais pas, je vais faire pareil. À l'Est, je vais mettre les Bucks et je vais mettre une pièce. Alors, elle est complètement folle, hein, mais j'y crois un petit peu, à Golden State.
À Golden State, qui finit bien et qui a une expérience de folie.
Parce que, exactement, ils finissent bien.
Attention à Phoenix.
Wiggins, on ne sait pas trop où il en est.
Kevin Durant peut te faire gagner un
titre. Kevin Durant n'a pas perdu un match encore avec Phoenix.
Ouais, mais il n'en a joué que 8. Hein.
Ça fait 8-0 quand même.
Non, mais je suis d'accord, mais sur une fin de saison quand même, principalement. Donc pour moi,
en plus, je crois que les Warriors, je vais pas te mentir, je pense qu'ils ont pris le jackpot au premier tour. Tu joues les Kings qui.
Bah, bien sûr, ils ont déjà fait leur saison.
Ça fait 4 jours qu'ils s'arrachent la tête parce qu'ils sont en playoff. Ils sont tout contents. La fin de saison, elle est cata. Pas d'expérience de playoff. Tu vas jouer les Warriors qui ont gagné titre sur titre. Je sais pas pourquoi.
Ça sent l'embrouille.
Et puis en plus, c'est pas très loin, donc tu vas en voiture à Sacramento, y a pas de fatigue. je pense que Sacramento, c'est pas un bon tirage pour les Warriors.
Un basket time tous les mardis en podcast sur rmc.fr. Le bilan des Français va être plus rapide que les saisons précédentes. Hein. Killian Hayes, and he launches and hits another three. He had Fournier on the drive. Nice up and under, Evan Fournier. Fournier, jumper is good.
Broke the news that Rudy Gobert will be suspended for one game. Woj, how did Minnesota come to this decision?
Malika, simply the fact that Rudy Gobert threw a punch at a teammate in a huddle during an NBA game. There was just no way around.
Alors, on va faire le bilan des Français, mais évidemment, on va beaucoup parler de Rudy Gobert parce que c'était un des points d'intérêt de la saison, ce transfert à Minnesota.
C'est un point d'intérêt.
Et puis, il y a ce coup de poing donc, sur son coéquipier qui lui vaut une suspension. D'ailleurs, il va rater le match contre les Lakers.
Exactement.
Sacha, raconte-nous quand même, fais-nous le point sur l'histoire. Quel va être l'avenir à court terme là, de Rudy Gobert ?
Rudy Gobert va être suspendu pour le premier match du play-in contre les Lakers. Bon, ce qui est une sanction en lose-lose situation un petit peu, c'est que quoi qu'il arrive, on va dire que si Minnesota gagne, c'est parce que Gobert n'est pas là. Si Minnesota perd, c'est parce que Gobert a mis une patate à son coéquipier.
Non, mais c'est vrai, pour lui, c'est catastrophique.
Ça donne une image un petit peu compliquée. Donc voilà, Minnesota sauve sa saison après un move faramineux cet été, comme l'a rappelé Steve. Maintenant, ils sont quasi en danger. Il faut voir comment ils vont gérer ce play-in. Ça paraît difficile de les voir passer contre les Lakers, moi, je trouve. Parce que je pense que dans ces exercices.
Les Lakers qui finissent bien aussi. Hein.
C'est ça. Dans cet exercice de match à élimination directe, je trouve que l'expérience des Lakers peut peser justement face à une équipe qui est un petit peu dans le doute. Et voilà, le Rudy Gobert, on le rappelle, il a mis une patate à son coéquipier Kyle Anderson. On a su par la suite que Kyle Anderson lui avait mal parlé. Après, chacun se justifie un petit peu. Kyle Anderson, il dit oui, mais moi, je suis comme ça. Il y a beaucoup, beaucoup de mes coéquipiers qui veulent me frapper, etc. Gobert, il dit qu'on lui a manqué de respect. On lui a dit de la fermer. On l'a traité de bitch. Il n'a pas aimé ça du tout. Et Draymond Green a dit, c'est bien. Bah, lui, on le sait, il aime pas trop Rudy Gobert, mais il dit, au moins, là, je le vois réagir. Je vois quelqu'un qui veut se faire respecter par son coéquipier. Normalement, ils ont pas le même statut. Donc, je comprends un petit peu le geste de Rudy Gobert. Maintenant, on était sur la dernière journée de saison régulière. Donc, tout le monde l'a vu, cette scène-là. Et forcément, t'as été obligé de sévir pour Minnesota de faire un geste fort parce que bah, tous les matchs étaient diffusés en même temps et personne n'a loupé ce moment.
Et tu vois quand même que c'est un milieu où c'est quand même des lions en cage. C'est-à-dire que dès que la patate part, il y en a 5 ou 6 qui sont prêts à sauter sur l'occasion pour faire une bonne bague.
Ils sont bien chauds.
Et là où l'image est pas terrible, c'est que tu vois Torin Prince prendre tout de suite la défense de Kyle Anderson et s'en prendre à Rudy Gobert. Donc tu as l'impression que je sais pas si Rudy s'est vraiment bien intégré dans cette équipe-là, s'il a vraiment le respect des autres. Et je sais pas si c'est un délit de sale gueule ou pas, mais Rudy... Il y a une campagne en fait contre Rudy, instaurée par le Shaq aussi, parce qu'il y a la jalousie de Shaq qui n'a jamais eu autant d'oseille que Rudy Gobert, alors que c'était un joueur bien meilleur que Rudy Gobert, ça c'est la vérité, mais bon, il n'a pas joué à la bonne époque. Il y a les campagnes de dénigrement de Draymond Green qui disaient « mais arrêtez de mettre Draymond Green et Rudy Gobert dans la même phrase, parce qu'on n'est pas du même niveau ».
Ouais, mais ce qui s'est passé, c'est que Rudy Gobert avait chambré quand il avait punché Jordan Poole,
oui, non, mais
et
après,
donc il lui a renvoyé un petit peu l'ascenseur par rapport
après,
à ça.
Mais après, souvent, vu que c'est des défenseurs de l'année, souvent on voulait mettre Draymond Green. Et Rudy Gobert dans la phrase, Draymond Green, arrêtez, on ne fait pas partie de la même caste. Donc il y a une campagne, il y a eu l'histoire de Covid, et ça c'est un truc en plus dans le casier de Rudy qui... les jours vont être durs pour lui et l'avenir va être dur pour
les nationales. Tu mets un pain à ton coéquipier,
l'image est cata,
tout le banc est contre toi, tout le banc te repousse, ouais c'est compliqué.
L'image est cata, la franchise te renvoie chez toi avant la fin du match, alors que Kyle Anderson, mine de rien, il passe entre les gouttes parce que lui il joue la fin du match. Il y a aucun grief contre lui parce que les mots renvoyés qui provoquent ce punch là qui doit pas avoir lieu, ce coup de poing, mais c'est quand même Kyle Anderson qui lâche la première insulte. Donc tout est contre Rudy. Minnesota, le problème, c'est qu'ils ont perdu Naz Reid, qui est le backup de Rudy Gobert, qui joue pas. Que ce bon Jaden McDaniels, le cerveau, il a jamais compris qu'un mur porteur face à un point, ça gagne pas. Donc, fracture du point. Donc, ils ont 3 joueurs en moins pour jouer les Lakers. Et après, la saison de Rudy.
Alors, la saison, c'est 30 minutes, 13 points et demi.
C'est les plus petits chiffres offensifs en carrière depuis 2017.
11 rebonds et demi, à peine une passe et 1,5 blocs.
Tout est en baisse.
Mais même au niveau des blocs, moi, ça m'a surpris. En fait,
la première saison, il a moins de 2 comptes par match.
Exactement, je trouve ça très surprenant parce qu'offensivement, on s'est dit, ok, le temps qu'il s'intègre, etc., on peut l'entendre, mais c'est vrai qu'il protège beaucoup moins le cercle quand même, et ça pour moi, c'est un
Donc vous attendiez à mieux pour sa première saison à Minnesota.
Oui, je m'attendais à mieux. Après, on parlait beaucoup du binôme Towns-Rudy Gobert, mais on l'a jamais vu à l'œuvre. Donc Rudy, il avait quasiment la raquette pour lui tout seul, puisque Carl Anthony Towns a loupé plus de 50 matchs. Le nombre de tirs, il n'est pas en deçà de ce qu'il y avait, de ce qu'il y avait à Utah, et le pourcentage est plus bas. Donc. Pour moi, le mec qui l'a fait venir, là, le directeur des opérations basket, là, son nom m'échappe, McCauley, ou je sais pas, bref, lui, il a pris un risque insensé. C'est lui qui a mis en péril l'avenir de la franchise des Wolves pour Rudy Gobert. Rudy, il a encore 3 ans de contrat garanti.
Ouais, c'est chaud.
Je sais pas où ça va les mener. La saison, elle est moins bonne que l'année dernière. Anthony Edwards est devenu le vrai leader de cette équipe-là. Donc Rudy, c'est une saison décevante.
Et aucune chance de passer le play-in face aux Lakers.
Non, mais après ils auront un match chez eux au pire.
Voilà, l'avantage, c'est qu'ils ont 2 matchs. Voilà, dans leur position, en terminant 8e, ça te permet d'avoir un deuxième match.
Ils vont jouer soit les Pels, soit OKC.
Pour ensuite aller chercher le numéro 1, donc Denver.
Ah, tu joues Denver après.
Franchement, c'est pas le pire des tirages.
La fin de saison, ils sont cata.
Pour moi, c'est pas le pire des tirages.
Ouais, puis t'es équipé pour. Enfin, je pense que t'as des réponses dans ton effectif qui peuvent bien embêter Denver aussi. Le fait d'avoir des
intérêts. Rudy, saison
compliquée.
Je mettrais B-. Quoi.
B-.
Ouais.
Peut c'est... mieux faire.
Et surtout en retrait par rapport à ce qu'il avait fait jusqu'ici en NBA. C'est ça le
majeur. Moi, c'est principalement défensivement que ça me surprend. Parce qu'encore une fois, s'intégrer à une équipe, arriver comme ça. Voilà, ça peut être compliqué, mais c'est vrai que défensivement, je trouve qu'il met un pas en arrière.
Ce qui est triste à dire, c'est que j'ai l'impression que Rudy, c'est le 4e joueur de cette équipe. D'ailleurs, Anthony Edwards, derrière Anthony Towns, et derrière McConley qui est arrivé en cours de saison. Mm-hmm. C'est pas le statut pour lequel il est venu. Quoi.
C'est complètement vrai.
C'est hyper dur comme constat parce que je regardais les articles qui étaient écrits avant le début de la saison. On le considère comme le 3e pivot en puissance dans la NBA à ce moment-là, oui. Rudy Gobert. Et là, en fait, tu te rends compte qu'il devient limite un pivot. Top 15, quelque chose comme ça, top 10, je regarde les statistiques.
T'as dedans à me dire que Rudy Gobert, c'est Yusuf Nurkić.
Non, mais J'ai envie de le défendre parce que Rudy Gobert, c'est un peu ce pote gênant que t'as en soirée qui fait des flops tout le temps, tu vois. Mais tu l'aimes bien, c'est ton copain. Mais t'as l'impression qu'il s'intégrera jamais dans le mood de la soirée. Il sera vraiment jamais dans ce délire.
Toujours des vannes en travers. Il va faire du breakdance alors que c'est du rail.
T'as l'impression qu'il catalyse énormément de haine de la part des Français, de la part des Américains, de la part de plein de mecs aux États-Unis qui aiment pas son style de jeu. La vérité, c'est que je trouve qu'il est pas forcément hyper bien utilisé aussi à Minnesota. On le voit, son impact au sein de l'équipe. D'habitude, c'est quelqu'un qui rapporte 7, 8, voire 10, 11 victoires à sa franchise. Là, il en rapporte même pas une. Donc, ça montre que son utilisation, elle est un petit peu étrange. On voit qu'il est toujours efficace quand il a ses ballons. Le joueur qui lui fait le plus de passes dans son équipe, c'est Karl-Anthony Towns. C'est quand même assez ouf.
Un bon passeur pour
ouais,
un bon
mais,
passeur.
Et en fait, t'as beaucoup de joueurs autour de lui qui ne savent pas jouer avec lui. Anthony Edwards, il l'a dit.
Pourtant, McConney a joué combien d'années
lui aussi, il y arrive. C'est un des seuls qui arrive à jouer avec lui. Mais quand tu prends
après, il arrivait plus tard aussi.
Oui. Ouais.
Edwards, il l'a dit. Je ne sais pas lancer un hoop. Je l'ai appris cette année.
C'est pas faire une passe.
Ouais, voilà. Non, mais c'est.
Mais est-ce qu'il est là pour ça?
Ouais. Après, Rudy Gobert, c'est le mec qui te lance une chenille sur la tribu de Dana, gros.
La tribu de Dana, ouais. Manon, chercher loin là.
Non, mais donc c'est une saison difficile pour Rudy Gobert.
La vallée de Dana, non?
Non, la tribu de Dana.
Oui. Ok, c'est pas.
Tu connais pas tes classiques?
C'est pas la vallée de Dana?
Non, c'est les paroles.
C'est la vallée de la tribu de Dana.
Bravo Steve, bravo. Alors, donc le bilan, on va dire qu'il est pas bon pour Rudy Gobert, mais alors que va-t-on dire de celui d'Evan Fournier? Là, c'est quand même une dégringolade. Il est sorti du 5 à New York, a rejoué heureusement.
Est-ce qu'à
un moment, j'ai même demandé s'il n'allait pas finir la saison sur le banc.
Le problème, c'est que. On peut pas juger Evan sur le terrain vu qu'il a pas joué.
Sa saison,
elle s'est terminée le 13 novembre.
C'est
du coach, en fait. C'est Tom Thibodeau qui choisit de pas le faire jouer. Plusieurs fois, même, il a surpris tout le monde en revenant sur le terrain et en apportant un petit peu. Donc, tu peux pas vraiment juger, en fait.
Mais tu peux quand même te dire que s'il s'était imposé, qu'il était devenu incontournable, son coach n'aurait pas fait ce choix-là aussi.
Mais les Knicks, ils l'ont mis dans des conditions, c'est quand même super dur. Enfin, on salue en même temps la saison des Knicks, qui pour le coup ont réussi à faire quelque chose de bien pour eux. Mais les signes qu'ils envoient quand ils signent Evan Fournier, c'est catastrophique. Ils le signent assez cher, c'est une recrue phare de l'été. Derrière, tu ramènes Kemba Walker qui est censé jouer avec lui, alors qu'on sait que Kemba Walker, c'est pas du tout un meneur qui va faire briller un profil comme Evan Fournier qui joue beaucoup off-ball, etc.
Ils se sont trompés. Ouais. Ils ont voulu faire d'Evan Fournier un tireur à 3 points. Rappelez-vous sa première année à New York, il passe sa vie dans le corner, en bout de chaîne, à tirer à 3 points.
Il bat le record de franchise.
Oui. Mais le problème, c'est qu'ils se sont trompés sur le garçon. Tom Thibodeau, il a jamais vu un match d'Evan Fournier, que ce soit à Orlando ou à Denver, pour dire à Evan, tu seras un streak shooter à 3 points dans le corner.
Donc il voulait presque un 3-and-D, finalement.
Son utilisation a été catastrophique. Le problème, c'est que.
Comment il faut l'utiliser, Evan?
Evan Fournier, il faut qu'il ait le ballon dans les mains, il faut que ce soit un slasher, qu'il ait provoquer les fautes, il a besoin du ballon, Evan. Il peut mettre dedans à 3 points, mais c'est pas Evan Fournier. S'il n'a pas le ballon en main, s'il n'est pas là pour provoquer les fautes,
ça ne doit pas être une option principale. Il peut le faire sur des séquences, évidemment, mais c'est vrai que lui, il doit créer du
open court, même de temps en temps utiliser des pick and roll. Mais ça peut pas, c'est pas Jason Capolo.
Du jeu collectif aussi à cette époque. Enfin, moi, je suis désolé, je vais en remettre une sur lui, mais Kemba Walker, quand tu l'as à la main, tu peux pas avoir un style de jeu qui correspond à celui d'Evan Fournier. Tu peux l'avoir un petit peu lancé, ou tu le perfais. Enfin, lui, il aime beaucoup curler par-dessus les écrans pour être lancé, justement, avoir le choix de faire un flotteur, faire la différence. Et avec un meneur comme Kemba, qui est un scoreur de base, qui n'a jamais été un fabuleux passeur, même s'il a dû passer 10 passes D sur plusieurs matchs, c'est incompatible. Et c'est une erreur de casting qui est monumentale. Et on le sait parce que derrière, ils vont tèche Walker, ils gardent Fournier, mais Fournier, on le reteste même pas derrière. Moi, je trouve que c'est dur.
Quel est son avenir à court terme?
Il reste une année de contrat garanti à 19 millions. La deuxième, c'est le club qui a une option là-dessus. Est-ce qu'il va être tradé à l'intersaison? Ils n'ont pas trouvé preneur parce qu'ils étaient gourmands avant la trade deadline, parce qu'ils voulaient un premier tour de draft et personne leur a donné. Maintenant, il faut donner aussi raison à Tom Thibodeau, qui a voulu jouer la carte jeune avec Quickly et avec Quentin Grimes. Ils finissent cinquième de la saison régulière. Donc Thibodeau a eu raison dans ses choix.
C'est ça qui nous ennuie.
Oui.
Parce qu'on aimerait défendre le cas d'Evan Fournier, mais Tom Thibodeau, il a des résultats, il a fait des choix forts. Et il les assume, et en plus ça performe. Qu'est-ce que tu veux dire?
Il disait qu'il le voulait pas, Thibodeau. C'est peut-être aussi un manager qui a pris un joueur qu'il adorait, qui l'a signé cher, qui l'a mis dans les bonnes conditions, alors que le coach finalement n'y croyait pas forcément.
Donc il faut qu'il aille voir ailleurs.
Evan ne peut pas accepter de faire une deuxième saison comme il a fait là. c'est pas possible pour un garçon de son âge qui arrive dans les 30 ans. Il faut qu'il trouve une équipe.
Il y a des qualités à donner à quelqu'un d'autre.
Il fasse une sacrée saison la saison prochaine, parce que sinon ça va être dur pour lui.
Donc il a besoin de jouer, ou alors dans une équipe contender qui est en sortie de banc. Mais Evan ne peut pas se contenter du deuxième saison comme ça. Et puis si on se projette un peu plus loin, même pour l'avenir de l'équipe de France, là il y aura pas de problème parce que Evan est très pro et va faire des séquences là. Une fois que la saison des Ligues sera finie, il va se remettre en canne. Donc ce sera pas problématique pour l'Euro. Mais s'il refait une saison blanche sans jouer, juste avant les JO 2024, ça va commencer à être compliqué. Donc il faut qu'il trouve un club où il joue.
C'est seulement 27 apparitions, c'est très peu pour un joueur qui n'est pas blessé.
C'est très peu, et puis qu'il a quasiment plus joué à partir de novembre.
On passe à Nico Batum, c'est très bon élève.
Non. Fidèle aux attentes, intégré pleinement dans une équipe où il y a pléthore de
22
talents.
22 minutes, 6 points, 4 rebonds.
Un homme fort de Tyron Lou, starter sur la fin de saison à la place de Maurice, quelques coups de choix à 3 points, le panier de la gagne contre les Knicks, 22 minutes dans une équipe où le roster est énorme, il a fait du Nicolas Batum.
Voilà. Il a mis les points quand il fallait, il fait un match à 8 paniers à 3 points, avec 24 points.
Il monte à 24 pions.
Voilà, qu'est-ce que tu peux lui reprocher?
Sans lui reprocher, on peut.
Il est parfait dans le rôle de Nicolas Batum.
C'est pas le même contexte que les autres. Je pense que les attentes et comment est construite la franchise, c'est peut-être plus arrangeant pour lui. Mais c'est vrai que derrière, il n'y a aucune fausse note sur ce qu'il fait sur la scène.
Non, il est dans une équipe qui est quatrième de la Conférence Ouest.
Il y a besoin de points, il met des points, il défend, il fait ce que l'équipe a besoin.
Il fluidifie le jeu sur la qualité de
là où on a besoin de lui, il est là. Et je trouve que c'est le rôle qui lui va le mieux, c'est d'aller combler les brèches.
C'est du Nicolas Batum, tout simplement.
Il va finir avec une bagou. Comme annoncé par Steve au début de saison.
J'aimerais bien, mais bon, ça va être compliqué. Ils n'ont pas tiré le meilleur jackpot au premier tour.
Alors maintenant, sur les autres, ça va être plus rapide. Si vous avez quelque chose à dire, vous me dites. Sur Kylian Hayes, Théo Malédon, Ousmane Dieng, Franck Ntilikina, Moussa Diabaté, Olivier
Sarr. Ça mérite 3 minutes sur Kylian Hayes.
3 minutes sur Kylian Hayes, les 3.
Ça mérite parce que il a profité de la blessure de Kate Cunningham, il a starté énormément de fois, il a joué
du bon et du moins bon.
Il fait 10 points, 6 passes, la production chiffrée correcte, mais dans une équipe de cancre qui a gagné 17 matchs.
T'imagines, tu gagnes 17 sur 82.
C'est long, mon grand. C'est long.
Wow.
Grosse déception sur son match à Paris.
Oui, après, moi j'ai un vrai problème avec Kylian Hayes. Il a des pourcentages dramatiques.
C'est les pires en coach shooting. C'est pire de la NBA.
37% au tir, 28% à 3 points, c'est faible. Très faible. Combien de fois il a fait des 3 sur 17, des 4 sur 18? Alors il a montré des progrès défensifs sur l'homme, une meilleure lecture de jeu sur les passes. Il y a plusieurs matchs à plus de 10 passes, mais dans une équipe aussi affligeante que ça, avoir des pourcentages comme ça, quid de la saison prochaine où Kate Cunningham va revenir, que Jaden Ivey va être dans le 5, donc il va retourner sur le banc. Il y a eu quelques coups d'éclat, mais tu peux pas en tant que meneur de jeu avoir des pourcentages comme ça.
Moi ça me fait penser à Théo Malédon un peu, sa première saison où il avait été plutôt bon, il avait mis plus de 10 points, sauf que ses pourcentages étaient cata, et l'année suivante il avait pas joué, en fait, tout simplement.
Après il fera sa quatrième saison de son contrat rookie et on verra après, mais et alors, meilleur, il faut qu'il mette dedans.
Et alors, dans un contexte où l'équipe de France a besoin de meneurs, est-ce que c'est rédhibitoire?
Je pense que ça joue pas en sa faveur, parce que du coup, comme il fait une carrière NBA qui pour l'instant est pas satisfaisante ou qui est un petit peu moyenne, je pense qu'il peut passer sous les radars là où il y a d'autres joueurs français qui vont faire des grosses saisons, par exemple en Europe, et vont montrer des choses peut-être plus accomplies que ce que lui fait en NBA, et vont peut-être prendre sa place aussi au sein de l'équipe de France. Kylian Hayes, au moins, il y a des signes rassurants, c'est qu'il passe plusieurs 20 points cette saison.
Il y a eu des belles séquences, il y a eu des bons mois où il a enchaîné les matchs entre 15 et 20.
Mais là, sauf son dernier match en soi, mais sinon il a plutôt été bon sur la fin de saison.
S'il n'y avait pas ça, c'était un pic de draft très 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 difficile pour Détroit, parce qu'il est drafté haut, il y a des attentes quand même, parce que
après ils ont drafté d'autres mecs sur le même poste plus tard et plus haut encore,
bien sûr, mais
non, mais ce que je veux dire, c'est, tu vois, à un moment, quand t'empiles les tours de draft, t'as forcément
après,
des déceptions.
C'était vraiment un bon meneur désigné, là où les autres c'est des postes 2, poste 3, poste combo, etc. Je pense que c'est lui qu'on voyait en tant que gestionnaire. Après, on le sait, le contexte de Détroit, il est ultra compliqué, il y a des rotations à rallonge, c'est dur, il y a des jeunes dans tous les sens. Heureusement qu'il a eu ses matchs et ses coups d'éclat, parce que sinon je pense que sa présence en NBA, elle aurait été vraiment remise en cause.
Et au moins du retour de Kate Cunningham l'année prochaine, comment ça va se passer pour lui? Il va sortir du banc forcément.
Faut sortir les dents.
C'est bon pour Thomas Hurtel, quoi. Il va y avoir de moins en moins de débats, non? Il rigole,
Fred. Surtout si au fur et à mesure les Russes sont autorisés à reprendre des sports en compétition.
Non, mais tu vois, un Nadir Ifi, dans un autre contexte, c'est peut-être pas le même calibre, c'est pas le même style de joueur non plus du tout, mais tu vois, il fait une très bonne saison en championnat de France. Je suis pas sélectionneur de l'équipe de France.
Après le portail, ils sont pas en pleine.
Nadir Ifi, c'est exceptionnel ce qu'il fait. Vincent Collet avait pensé à lui sur la dernière fenêtre où il y avait plus d'enjeux.
Ouais, sur les fenêtres, c'est intéressant.
Attends, on parle d'un Eurobasket ultra relevé. Nadir Ifi, il a jamais joué un match de Coupe d'Europe.
Un mondial.
mondial, pardon, ultra relevé, Nadir Hifi, avec tout le respect que j'ai pour la saison qu'il fait, c'est exceptionnel. Il y a quand même un énorme gap entre cartonner au portel et faire une Coupe du Monde.
Bien sûr, mais tu crois en Kylian Hayes pour prendre ce spot-là? C'est juste la question.
Non, mais il y a Sylvain Francisco, par exemple.
Oui, Francisco est un nom que, et un nom, bien sûr, moi je pense à lui aussi, j'aime bien le profil. Hein.
Avec ou sans Francisco.
Non, mais est-ce que Kylian Hayes, tu lui donnerais un spot comme celui-ci? C'est ça la question, en vrai de vrai.
À Golden State.
À Kylian Hayes, bah, je pense qu'il va être testé sur la prépa quand même, Kylian Hayes.
Bien, on a fait le tour. Théo Malédon, on dit encore quelque chose?
Théo Malédon, moi je suis très inquiet pour la suite de ses aventures NBA parce qu'il y a déjà quelques franchises d'Euroleague qui s'étaient intéressées à lui à l'intersaison.
C'est un bon prospect pour l'Asvel l'an prochain.
Il avait un two-way contract, donc il avait un certain nombre de matchs limités. Il a profité de la blessure de la Melo Ball. Il a brillé là sur les deux derniers matchs de la saison avec 22-21 points. Mais bon, ça n'a pas vraiment de réelle signification pour lui.
En même temps, Dieng et Sarr aussi ont brillé sur les derniers matchs. Alors qu'il,
Dieng est nouveau. Dieng est un rookie dans une équipe qui a gagné les matchs.
Ce que je veux dire, c'est que les derniers matchs, est-ce que ça...
Oui, non, ça n'a pas de signification. Mais Théo Malédon, Frank Ntilikina... Attention à l'avenir en NBA. Je suis pas sûr qu'il joue beaucoup encore beaucoup d'années.
Moi, je suis plus inquiet pour Frank même.
Frank, pour moi, c'est terminé.
Je vois pas comment il pourrait rebondir et trouver autre chose.
Là, messieurs, désormais, vous allez. Oui, Sacha, tu
avais juste une petite mention pour Sidy Sissoko qui évolue en G-League dans l'équipe Ignite. Donc,
quel est le rapport avec la NBA?
La transition.
Justement, il va être drafté là.
Non, mais parce que justement, je pense que c'est un Français, un prospect dont on n'a pas forcément beaucoup entendu parler parce qu'il est justement en G-League.
En début de saison, on en a parlé justement, ce qui était en G-League.
C'est bien de le rappeler quand on est en fin de saison, comme ça, la boucle est bouclée. Très belle saison pour lui.
Allez, c'est l'heure des récompenses.
Today, I'll be predicting who should win along with the runner-up for each major reward. First up for MVP, I have Joel Embiid as the winner. Rookie of the Year, my winner is Paolo Banchero and my runner-up is Jalen Williams or J-Dub. Most Improved Player, I have Lauri Markkanen with the runner-up being Shai Gilgeous-Alexander. Sixth Man of the Year, I've got the winner being Emmanuel Quickley and the runner-up being Malcolm Brogdon. Defensive Player of the Year, I've got Jaren Jackson Jr. with the runner-up being Evan Mobley. Coach of the Year, aka the award that no one cares about, I've got the winner being Mike Brown and the runner-up being Mark Daigneault.
Les récompenses individuelles, on va surtout parler du trophée le plus convoité, celui de MVP. Alors, au cours de la saison, le favori a changé. Et le favori de cette fin de saison, c'est Joel Embiid. Alors, malgré tout, il va y avoir quand même débat. Peut-être avec Nikola Jokic et Giannis Antetokounmpo. Est-ce qu'il y en a un autre? Est-ce qu'on rajoute Tatum? Tatum, c'est quand même un joueur exceptionnel.
Moi, je ne rajoute pas. Je pense que les trois là sont les plus représentatifs.
Déjà, vous m'expliquez pourquoi on sort Tatum, déjà, d'entrée de jeu. Un argument.
Parce que les autres sont trois monstres
il est un tout petit en dessous. Il a encore progressé cette année. Faut le respecter quand même. Hein.
Ah non, mais c'est pas qu'on le respecte pas. Les trois sont juste des mutants. En fait.
J'ai l'impression
Pierrot, on arrive.
Vous faites un malin plaisir à pas respecter les gens depuis la semaine dernière.
Non, ça c'est Sacha, c'est pas nous.
Après, Pierrot, on arrive sur le podcast du bilan de fin de saison. Donc on va pas non plus faire une liste de 7 noms. On arrive sur le bilan de fin de saison et la liste s'est réduite. Jason Tatum fait une saison fantastique, mais il est sorti de la liste des prétendants de MVP. Et des prétendants de MVP, pour moi, il n'y en a plus qu'un en fait.
Ah, il n'y en a plus qu'un.
Ouais.
C'est réglé.
Je pense que c'est réglé.
C'est Jojo.
Joel Embiid a réglé tout le monde sur la fin de saison. Jokic a perdu beaucoup sur la fin de saison avec Denver. Joel Embiid a encore planté, a encore mis 52, je crois, il y a 10 jours contre Boston.
Ouais, je l'ai fait.
Ils ont battu les Celtics.
Il aura fait mal.
Voilà. Joel Embiid termine meilleur marqueur de la saison. Je pense que Jojo Embiid va prendre son trophée. Où il avait plus ou moins lâché l'affaire en disant ça m'intéresse plus, maintenant c'est le résultat collectif.
Maintenant c'est l'équipe de France.
Voilà, c'est l'équipe de France aussi, parce qu'on a pas, sur le bilan des Français, on n'a pas parlé de Joel Embiid qui fait une saison fantastique.
Mais parce qu'on savait qu'on allait en parler dans les MVP, c'est pour ça qu'on n'a pas.
Mais pour moi, Joel Embiid sera MVP de la saison.
Ok, pour toi, Sacha?
Moi, c'est Jokic. Alors, vraiment, grosse saison de Joel Embiid, mais.
Merci pour l'info.
Pour moi, s'il devait être dans une conversation pour MVP, c'était il y a 2 ans, et je trouve qu'il y avait vraiment débat avec Jokic. Quand t'es un pivot qui met ton équipe au sommet de la conférence ouest qui tourne quasiment en triple-double de moyenne et que t'es pas MVP, je trouve que c'est banaliser le fait que Jokic marche sur l'NBA depuis 3-4 ans en fait, si on le donne à Embiid. Là où ça me gêne encore plus de le donner à Embiid, c'est que j'ai l'impression qu'Embiid fait cette saison pour prendre ce MVP. Les résultats collectifs de Philly par rapport aux autres saisons, c'est pas non plus un immense bon, même s'il est plus rigolier.
Stop, j'arrête.
On reparle d'une perf. Non mais j'aime bien parce
qu'il a détruit Jokic. Il a marché dessus. en confrontation directe, Jokic n'existe pas.
Mais pourquoi à Denver, il y a des panneaux où il y a écrit Joel Embiid et recherché ici? Pourquoi Joel Embiid ne vient pas ici? Pourquoi il ne vient pas jouer ici? Parce que Joel Embiid, c'est un mec qui va chercher son MVP.
Tu nous as mis les panneaux où est passé Nikola Jokic sur la fin de saison à Denver? Moi, je peux t'en créer des panneaux.
Ils sont premiers à l'Ouest. Ils sont combien les Sixers?
Ils sont
premiers,
les Sixers. Jokic, fin de saison, il est passé.
Non, mais parce que Embiid, c'est bien d'aller prendre le meilleur scoreur. En fin de saison, on a toujours prôné les résultats collectifs. Son équipe, elle est troisième.
Non,
mais
sur le nombre de victoires, c'est quasi. Non,
mais
Sacha,
la parole est à Sacha pour l'instant. Donc,
fin de saison, c'est Valentin Chéri.
Pour moi, il n'y a que deux candidats sur ce MVP. Il n'y a que deux candidats sur ce MVP. Ce sont Nikola Jokic et ce sont Giannis Antetokounmpo. Tout simplement parce que Antetokounmpo.
Profites-en, c'est ta dernière.
On ne parle pas de sa saison et son équipe, elle est première à l'Est. Jokic, son équipe, est première à l'Ouest. Si on banalise un mec qui fait une saison en quasi triple-double en étant pivot, il est pivot le mec. Ça veut dire qu'on laisse tout passer.
Aussi est pivot,
si on donne le MVP à Embiid, eh ben je suis désolé, ça veut dire qu'on gratifie les stats au-dessus de tout et le mec qui met 33 points par match en prenant 22 tirs, en tirant 11 lancers francs, en prenant tous les ballons de son équipe.
11 lancers francs parce qu'il provoque des fautes, mon
gars. Jokic, il tourne à 10 sur 15 au tir en match, il rate 5 tirs par match. Il emmène tout le monde vers le haut. Embiid, il emmène personne vers le haut et je suis sûr qu'on va le voir en play-off.
Défensivement, Jokic, il emmène tout le monde vers le bas. Il emmène tout le monde vers le bas.
En play-off, comme d'habitude, il va être fatigué parce qu'il allait chercher son MVP comme un débile.
Mais arrête, ça veut dire que tu vas donner.
Et Philly va stagner comme d'habitude.
Mais ça veut dire que tu vas donner un troisième titre de MVP. Tu vas le mettre au même niveau que Larry Bird et Will Chamberlain. Pour un mec qui a jamais gagné un titre, tu vas le mettre au même niveau que les Bird et compagnie. 3 titres de MVP pour un mec qui a jamais gagné un titre.
Mais bien sûr, mais pourquoi on n'a pas donné 10 MVP à LeBron aussi? Il les méritait aussi, largement.
Il les mérite, le
Brown.
C'est
incroyable.
Heureusement, Stephen s'est étouffé. On va pouvoir donner la parole à Fred.
Alors, c'est scandaleux. Moi, j'ai vraiment une petite tendance sur Jokic aussi. Alors, je suis pas d'accord du tout avec toi, Sacha, parce que je pense que Joel Embiid a été monstrueux et que, tu vois, regarde, je reviens à Giannis, par exemple. Tu sais qu'il y a des nouvelles règles qui font que si tu ne fais pas 65 matchs l'année prochaine, pas cette année, à partir de l'année prochaine, à partir de 65 matchs, tu ne peux pas être considéré comme MVP.
C'est une bonne idée.
Giannis, 63 matchs. Donc, pour moi, par définition, il est en dehors de cette course parce que par anticipation et par respect par cette règle, pour cette règle qui me semble plutôt bien
voilà,
pensée.
Mais il n'avait pas, tu te rends compte qu'il mettait Antetokounmpo devant Joel Embiid? Non mais merde, Pierre, c'est ton émission. C'est
non, mais moi, je suis fasciné par ça.
100 000 auditeurs par mois, et on est obligé d'écouter ça.
Et donc, Giannis fait une saison éclatée, les Bucks sont pas premiers à l'Est, ils sont pas l'équipe la plus
dominante. Mais il a joué 103 matchs, l'année prochaine, il est même pas dans les classements, Giannis Antetokounmpo avec le nouveau règlement.
Exactement. Mais parce que Giannis Antetokounmpo, il pense au play-off, Embiid, il pense à la saison régulière, les gars, faut se réveiller un peu.
Après,
j'ai lu un truc qui m'a semblé.
Philadelphie court après un titre,
il ne sait plus comment faire. Philadelphie, ça fait 10 ans qu'il y a un process qui court après un titre, ils sont.
Tu peux me laisser parler?
Allez, Fred, à toi.
Donc, je disais, j'ai lu quelque chose qui était très intéressant, je sais plus qui le disait, mais qui disait, en fait, si on met Jokic comme MVP une troisième fois, c'est-à-dire que sur les cinq dernières années, on a trois fois Jokic et deux fois Giannis. Mm-hmm. Ce qui veut dire qu'on exclut complètement l'apport et la domination d'un Joel Embiid. Et je trouverais ça très, très dommage.
Après, moi, je suis désolé. Alors, moi, j'adore Joel Embiid, mais je trouve que ça, c'est pas un très bon argument parce que tu dois récompenser le MVP sur sa saison, pas pour faire des classements d'année sur année, machin.
Je suis d'accord. Mais c'est
juste que Messi, il a peut-être trop de ballons d'or pour certains, mais s'il les a mérités parce que cette année-là a été le meilleur, c'est à lui qu'il faut le donner.
Oui,
sinon, ça n'a aucun sens.
Il en a eu quelques-uns qui n'étaient pas mérités.
Attends, juste.
Mais si tu donnes un ballon d'or ou un titre de MVP en fonction de ce qui s'est passé avant, non, ça ne marche pas. Sinon,
mais c'est ce que dit Lillard.
J'entends. Et juste contre l'argument que Sacha a donné, et encore une fois, je défends plutôt Jokic, mais contre l'argument, il dit Jokic est premier à l'Ouest, avec 53 victoires. Embiid est troisième à l'Est. Mais avec 54 victoires.
Ouais, ah ouais, une.
C'est vrai. Ah ouais,
mais
ce que je veux dire, c'est que tu viens.
Mais il en faut combien alors? 20 plus et il est 74
matchs. C'est
vrai que Jokic, tu joues avec Harden et Tobias Harris.
Il s'est servi de cet argument en disant il est premier à l'Ouest. Ben ça veut rien dire en fait. C'est le bilan comptable à la fin de la saison qui est important.
Bon, après, vous vous régalez. Vous savez pourquoi vous vous régalez? Parce que l'an dernier, quand j'ai osé remettre en question le titre d'MVP de Jokic, vous m'avez rigolé au nez, messieurs.
Mais
là, je me régale.
On choisit juste quelqu'un parce que
et pour moi, Jokic, il a plus d'apport dans son équipe. C'est pour moi, c'est vrai qu'il tire beaucoup son équipe vers le haut avec son jeu et son jeu de passe.
Qui est le meilleur défenseur de l'année, Stephen?
C'est Jaren Jackson Jr.
C'est Jaren Jackson Jr. Un petit mot.
C'est le meilleur contreur de la ligue. Les Grizzlies sont la troisième défense de la ligue. Et une petite stat marrante, c'est que Jaren Jackson a loupé les 14 premiers matchs de la saison. Memphis était la 20e défense. Et depuis qu'il est revenu, ils sont passés troisième meilleure défense de la ligue. C'est un garçon qui laisse
meilleur
les plus
contreur
petits...
en plus.
Meilleur contreur, ouais, qui laisse les plus petits pourcentages au tir près du cercle. Grosse mobilité et vitesse de pied pour défendre sur des joueurs un peu plus petits. C'est pour ça que je le mets devant Brook Lopez, qui est quand même un peu plus grand, un peu plus lent et qui a du mal à contenir les petits.
Qui est le meilleur sixième homme de la saison, Sacha?
Pour moi, ce serait Emmanuel Quickley qui représente un petit peu ces trouvailles de New York. Il sort du banc, mais il tourne à 22 points de moyenne. Enfin, il a été vraiment très précieux pour cette équipe de New York. Et de toute façon, pour le titre de sixième homme, c'est celui qui met le plus de points en sortant du banc. Donc, c'est lui. Ce sera lui.
Et alors, qui est le joueur qui a le plus progressé cette année?
Pour moi, c'est Lauri Markkanen qui est passé de
moins de 15 points.
Honnêtement, j'ai beaucoup hésité. Hein. Il y a Gilgeous, il y a Brunson, il y a Haliburton qui a été bon, Bridges aussi. Il y a beaucoup de joueurs. Mais pour moi, Markkanen, c'est celui qui a marqué le plus de points dans cette course-là parce qu'il est passé de 15 points à plus de 25. Il a augmenté ses rebonds, il a le meilleur pourcentage et il est All-Star en plus cette année. Donc pour moi, c'est celui qui est le MIP.
Et il n'y a pas de débat sur le meilleur rookie. Ce sera Paolo Banchero, numéro 1 de la draft.
Tu veux mettre quelqu'un d'autre ou pas?
Ton pote Bénédicte, pas mal quand même, non?
Le fait belle saison, Kylian Murray, Bénédicte Mathurin.
Non, il y a plusieurs joueurs qui ont fait des belles saisons, mais Banchero est au-dessus.
Par contre, pour le meilleur sixième, je pense que c'est Malcolm Brogdon qui mériterait de l'avoir.
Malcolm Brogdon.
Je suis assez d'accord.
Parfait. Alors, on va voir si vous avez bien suivi la saison, puisque le quiz, c'est un spécial bilan. Et alors là, je suis très content de ma trouvaille.
C'est pas pour Julien Lepers.
Qui était le coach à l'université, pardon.
Coco Kukoc,
absolument. Qui est le meilleur, quoi?
Le scoreur. Le boomerang, il est parti, mais il revient plus vite. Hein, tu prends plein de poire. Tac.
Imagine all the people playing for Vincent Collet. Parfois, il y a des dingueries dans ce podcast. Hein. Alors, il y a du très facile et du très difficile. C'est un spécial bilan. Pas que de cette saison, hein. C'est spécial bilan tout court. Voilà.
Calmement, quoi.
On va démarrer. Alors, attention, ça va aller vite. Quelle équipe détient le meilleur bilan de l'histoire de la NBA?
Les Warriors.
Les Warriors de 2015-2016. C'est pour Sacha le premier point.
C'était une question,
oui, comme ça.
Ça allait au niveau du
primaire.
C'est
là où je peux performer, après je peux plus.
C'est une question rapidité, 73 victoires, 9 défaites. Le bilan de Milwaukee cette saison, c'est 58-24. C'est pour vous situer quand même la performance de Golden State 2016.
Pas champion.
Parce que Milwaukee est malgré tout une grosse équipe.
Pas champion,
oui, certes, mais c'est tout le problème des bilans de saison régulière. Hein.
Comme MVP de saison régulière.
Parenthèse, je vois pas l'intérêt de donner un trophée de meilleur entraîneur de l'année parce que autant bon MVP pourquoi pas, mais alors meilleur entraîneur sur une saison régulière, c'est tellement naze.
Pour Cleveland, c'est sympa quand même.
Oui, c'est sympa, voilà, exactement, c'est sympa, mais ça n'a aucun sens.
Pour Mike Brown, sympa. Oui. Carmeto, coach de l'année.
Moi aussi.
Christophe Galtier, il pas une coach de l'année.
C'est dans les playoffs qu'on attend les entraîneurs.
Ouais,
hein,
la saison régulière. On va le donner à la fin quand.
Alors, on reste sur cette saison 2015-2016. Qui avait tweeté ceci? Félicitations aux Warriors.
Jordan.
Super groupe de mecs sur et hors du terrain. Si le record des Bulls devait être battu, je suis content que ce soit pas
Pippen.
Zeke.
Dennis Rodman.
Non, mais vous êtes un peu sur la
Phil
bonne
Jackson.
Voie. C'est quelqu'un qui est proche des Bulls, effectivement.
J'ai dit.
Horace Jackson.
Comment? Horace Grant, non. C'est pas un joueur des Bulls. Hein. C'est pas un ancien joueur des Bulls. Hein.
Joachim Noah.
Mais c'est quelqu'un qui a affiché son amour pour les Bulls.
D-Wade.
Parce qu'il vient de Chicago.
Ah, c'est Barack Obama,
ouais, exactement. C'est Barack Obama qui avait félicité les Golden State Warriors, qui avait battu le record mythique des Bulls. Ça fait un point pour Stephen. Et alors, cette saison-là, et après on en aura fini, qui avait coaché les Warriors pendant l'absence de Steve Kerr?
Walton.
Luke Walton, absolument, bravo. Bravo Steve, ça fait 2 points pour Steve. Et on va passer à la saison en cours. Qui a délivré le plus de passes cette saison?
Harden.
Non.
Haliburton.
Non.
Westbrook.
T'as délivré le plus de passes?
Trae Young.
Écoutez bien la question. La bonne réponse, c'est Trae Young, qui a délivré le plus de passes avec un total de plus de 6000 passes.
Sacré joueur.
Mais effectivement, Harden a une meilleure moyenne, puisque Trae Young a fait 741 passes en 73 matchs. Okay.
Pourquoi t'as dit 6000 passes?
Pourquoi j'ai dit 6000 passes? Ouais,
j'ai pas dit,
pour... Non, c'est moi, c'est moi.
C'est ça que j'ai dit 6000 passes, t'imagines?
J'ai mélangé deux trucs.
C'est pas mal. Hein.
Peu importe. C'est 741 en 73 matchs, et effectivement, Harden a une meilleure moyenne. Mais la bonne réponse, c'était Trae Young. Donc, ça fait deux points pour Sacha. Maintenant,
nous allons vérifier que vous connaissez bien votre Michael Jordan. Je vais vous donner des records de Jordan, vrai ou faux. C'est très simple.
Ah, c'est juste vrai ou faux à dire.
Vrai ou faux. On démarre par toi, Steve. Les autres, vous répondez pas. Michael Jordan détient le record de la plus longue série de matchs en marquant au moins 10 points. Vrai ou faux?
Faux.
C'est vrai. C'est vrai, du 25 mars 86. 25 mars 86. Écoutez bien ça. Au 27 décembre 2001. Donc tu marques pas ce point. Ensuite, on est avec Sacha. Jordan est le seul joueur à avoir inscrit en moyenne 30 points par match en saison régulière pendant 7 saisons consécutives. Vrai ou faux? Jordan est le seul joueur à avoir inscrit en moyenne 30 points par match en saison régulière 7 saisons d'affilée.
Après, je vais dire oui.
Et ben c'est faux parce que Chamberlain l'a fait aussi. Jordan l'a fait, mais il n'est pas le seul. Fred, Michael Jordan est le seul joueur à figurer dans le top 10 des meilleurs marqueurs, meilleurs passeurs et meilleurs intercepteurs de l'histoire en saison régulière.
Vrai.
C'est faux, c'est LeBron James qui a cette stat. Stephen, Michael Jordan détient le plus grand nombre de contres réalisés par un arrière en carrière.
C'est vrai.
C'est vrai, absolument. 893 contre Sacha. Jordan détient le plus grand nombre de saisons en tête du classement des intercepteurs. Si tu ne sais pas, tu jettes la pièce en l'air.
Ouais, je vais dire c'est vrai. Hein.
Et ben c'est faux, c'est Chris Paul, mon cher. Et enfin, Fred. Jordan détient le plus grand nombre de matchs consécutifs en tant que meilleur marqueur du match. Nombre de matchs consécutifs. Meilleur marqueur. Vrai ou faux?
Faux.
C'est faux, c'est Will Chamberlain. Ouais, bravo, Fred.
C'était un bon pilou face. Non, c'est à cause de Chamberlain.
Ah, tu pensais à Chamberlain. Très bien, bah, bravo. Ah bah justement, à propos de Michael Jordan, qui est en train de parler là?
Michael Jordan, the best athlete for me, basketball, football player.
C'est Pep Guardiola. Il a suivi l'actualité. Bravo, c'est Pep Guardiola qui a eu cette phrase incroyable. Il a plus perdu que gagné.
Oui.
Bon, moi j'ai trouvé l'exemple pas très bien choisi. Parce qu'en fait, Guardiola était interrogé là, avant le match contre le Bayern sur sa quête de Ligue des Champions avec City donc, et ses échecs successifs. Il a dit « Oui, mais c'est normal. Greg Norman a plus perdu que gagné. Michael Jordan a plus perdu que gagné. »
En fait, Jordan a perdu avant. Une fois qu'il a
commencé
à gagner, il a toujours gagné.
C'est ça le problème. Donc, exemple bon ou pas bon?
Oui, après, bon, c'est du pep. Hein.
C'est du pep. Alors là, attention sur le bilan de la saison. Quel est le seul joueur de Utah qui figure dans un top 5 d'un classement de la saison, point, rebond, passe, contre ou interception?
Cette année?
Ouais, de cette saison-là.
Jordan Clarkson?
Non. Alors je vais vous dire
Kessler.
Walker Kessler.
Ouais,
Kessler.
C'est ça, j'arrivais pas à retrouver
Walker
son nom.
Kessler.
Quatrième
dans le trade de Gobert.
Au niveau des contres.
Ouais. Quatrième contreur avec 2,3 contres par match. Alors attention, il a fait le trou, Steve. Alors je vous donne enfin un classement remontant de la 10e à la première place de cette saison, hein, la saison qui vient de se terminer. Et vous devinez de quel classement il s'agit. Vous avez compris la question?
Ouais.
C'est vrai, Steve, t'as compris du premier coup?
C'est une catégorie statistique?
C'est une catégorie statistique, absolument. Okay. Numéro 10, Corey Kispert. Numéro 9, Buddy Hield.
Le nombre de tirs à 3 points inscrits.
Numéro 8,
pourcentage à 3 points.
Joe Harris, pourcentage à 3 points. Pourcentage à 3 points, la bonne réponse, je pense, vient de Stephen Brun.
Oui.
Donc ça, là, ça fait 6 points pour Steve. 2 points pour Sacha, 1 point pour Fred.
Corey Kispert.
Le numéro 1 de ce classement.
Je vais jamais le laisser tout seul.
Numéro 1 de ce classement, Luke Kennard.
Ouais.
Kennard à 3 points.
Il y a Kennard. Tu sais qu'il est toujours présent au WC. Kennard WC.
Et alors, numéro 2 de ce classement, mais je vous l'ai sorti quand même parce qu'il y a des choses étonnantes, c'est Al Horford.
Bah oui, ah, il a un 3 points. Il a
mais c'est étonnant quand même. Hein. Steph Curry est 7e cette saison, Tyrese Maxey est 5e, Malcolm Brogdon 4e. Non, vous trouvez pas?
C'est le volume après, je pense.
C'est le volume.
Il prend les tirs qu'il sait qu'il
met. On lui passe pas le ballon dans le corner tout seul, c'est un peu plus simple.
Mais c'est précieux.
Ouais.
Donc Steve a beaucoup d'avance, mais vous allez pouvoir revenir, Sacha et Fred, avec la question multipoint. Vous allez me donner tour à tour un joueur qui a inscrit 50 points au moins une fois cette saison. Et il y en a eu beaucoup.
Cette saison.
Oh, il y en a eu beaucoup.
Ouais.
Il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
C'est quoi la grosse? Là, tu vas me mettre dans.
Fred,
la panasse.
Tu commences?
Fred, tu commences.
Bah, Jojo Embiid.
Alors, Jojo Embiid, bravo.
52
deux fois.
Contre Boston ou moins.
59 contre le Jazz, 53 contre les Hornets. C'est bon, Fred. Sacha.
Damien Lillard.
Ah, ton Damien Lillard, tu vois.
Lillard est content.
Parfois, on a besoin de lui.
C'est bon, 71 contre les Rockets, Steve.
Luka Doncic,
60, Luka. Et puis, alors, il n'en a pas fait qu'une seule fois. C'est bon, à toi, Fred.
J'en ai un, je ne suis pas sûr. McCallum.
Tu chutes d'entrée de jeu.
Oh, il doit être à 46 ou...
Bon, en tout cas, il n'y est pas. Sacha.
Donovan Mitchell,
c'est bon. Vous m'avez donné les 4 plus gros scoreurs, là, enfin les 4 plus grosses perfs sur un match. Steve.
Yannis Antetokounmpo.
C'est bon. Sacha.
Je vais mettre Tatum.
Tatum, c'est bon, bravo. C'est bon, ça passe. Steve.
Devin Booker.
C'est bon. En plus, vous le donnez presque dans l'ordre. Hein. Presque. Hein. Alors là, ça devient dur. Il en reste 5. Sacha, c'est à toi. Il y en a quand même un ou deux faciles à trouver. Hein.
Davis ?
Eh ben, bien sûr, Anthony Davis. Sinon, on n'aurait pas fait un podcast spécial Anthony Davis. À toi, Steve.
Steph Curry,
bien entendu. Sacha, il en reste 3.
Il en reste 3.
Tu peux plus revenir hein, sur Steve. C'est fini. Hein.
Dur.
Reste 3.
Ça sert plus à grand chose, même autant.
Ouais, mais pour l'honneur. Pour l'honneur, là, parce que si tu trouves les 3, c'est stylé quand même.
50. Towns.
Towns, non, c'est pas bon. Les 3, tu les as ?
Clay Thompson,
c'est bon.
Kyrie Irving ?
Non, c'est pas bon. Les deux autres, c'était.
Il y a un Camerounais.
Pascal Siakam est là. Et enfin, le dernier. C'est Darius Garland, 51 points. Ouais.
C'est à Noël. C'est à Noël, non ?
Minnesota, je sais pas, j'ai pas la date. C'est le garland de Noël. Bravo Steve, tu as écrasé ce quiz. À la semaine prochaine.
RMC Basket Time.